Je voudrais commencer avec un saint de demain. C'est une commémoration qu'on fait demain de Saint Calice. C'est un pape, il était au canon de la messe autrefois. Et c'est un pape très intéressant. Hein. C'est un pape que l'on connaît surtout grâce à Saint Hippolyte, qui était membre du clergé de Rome. Et Saint Hippolyte, oui, qui a été canonisé aussi, n'aimait pas Saint Calice. Il s'opposait à lui, mais il a écrit sa biographie. Alors, on n'est pas trop sûr de l'objectivité de Saint Hippolyte. Je vous raconte ça pas pour vous faire perdre la foi, là. C'est simplement pour vous montrer qu'il y a des choses un peu curieuses, des fois, dans les vieux et anciens temps de l'Église, là. Alors, il faut tenir compte, hein, de une espèce de passion qui aurait pu habiter le cœur de Saint Hippolyte. Il n'était peut-être pas saint quand il a écrit la vie de Saint Calice. Et puis, il faut essayer de regarder le texte de Saint Hippolyte avec le plus d'objectivité possible. Alors, on sait que Saint Calice, ce pape qui a été élu en 218, était un esclave. Oui, un esclave. Vous voyez, c'est là qu'on voit que le christianisme a aidé à libérer les esclaves. Souvent, on attaque le christianisme pour toutes sortes de raisons. Et on a raison. Oui, je suis bien prêt à concéder qu'on a raison dans bien des cas. Mais regardons aussi ce qu'il y a de positif dans l'histoire de l'Église. Ce pape était un esclave. Son maître, rapporte sa biographie, lui confiait d'ailleurs des tâches assez importantes car il était brillant. Il lui a donné en particulier la charge des opérations bancaires. On se demande s'il aurait vraiment dilapidé un peu d'argent de son maître, comme le dit Hippolyte, ce qui lui aurait valu un séjour en prison. Bon, quoi qu'il en soit, on le retrouve à Rome, Caliste. C-A-2-L-I-S-T-E. On disait autrefois Calixte. Et on le retrouve donc à Rome au temps du pape Zéphirin. Le pape Zéphirin l'a ordonné diacre. Et les diacres s'occupaient justement des finances de l'Église et le pape donc lui a confié des tâches matérielles, mais des tâches matérielles importantes. Il l'a chargé d'organiser le premier cimetière chrétien de la ville de Rome, qui va porter son nom, puis qui va le rendre célèbre, hein, les catacombes de Saint Calixte. Vous avez visité ça, vous qui êtes allés à Rome, ces grands tunnels où les premiers chrétiens se cachaient pour célébrer la messe et enterrer leurs morts. Donc, je vous ai dit qu'il a été élu pape en 218. Calixte a trouvé sur sa route ce prêtre, là, Hippolyte, qui, avec une partie du clergé romain, s'est opposé à lui, emmenant contre lui bien des attaques. Mais cependant, les attaques n'ont fait qu'encourager chez le pape son attitude proprement évangélique. Ça peut faire plaisir aux protestants de penser qu'il y a eu des papes évangéliques. Beaucoup ont été évangéliques, sachez-le bien. Lisez bien l'histoire des papes. Mais savez-vous d'ailleurs que l'histoire des papes la plus fameuse a été écrite par un éminent luthérien, le docteur Ludwig Pastor. Elle est en 36 bons volumes. Et alors qu'il était rendu à la fin des 27-28e volumes, devant tout ce qu'il avait étudié, son bon cœur de luthérien, de chrétien qui souhaite une réforme profonde de l'Église, a vu que tant de papes ont fait des réformes, ont souhaité des réformes, mais jamais, jamais ils n'avaient fait d'erreur vraiment dogmatique, qu'il est entré dans l'Église catholique. Le docteur Ludwig Pastor, dont je vous parlerai un jour, sans vouloir attaquer les luthériens, non, c'est pour montrer que quand on étudie sérieusement, peut-être qu'on peut changer d'idée sur certaines questions, à tout le moins. Alors, le rigorisme d'Hippolyte, qui était lui très rigoureux, qui aurait voulu que le pape soit moins doux. Ça fait penser aux pharisiens de l'Évangile. Et puis c'est ça qui amène Hippolyte à accuser le pape de laxisme, c'est-à-dire d'avoir l'esprit trop libéral et trop large. Hippolyte s'oppose en somme à l'indulgence, à la compréhension de ce bon pape dans le genre 23 qui était Saint Calliste. C'était un bon pasteur pour la faiblesse des humains. Et en particulier, il s'appliquait, ce pape, à réintégrer dans l'Église ceux qui avaient apostasié leur foi catholique. Ce qui n'était pas très, très accepté à l'époque. Pensez qu'aujourd'hui, dans l'islam, un musulman qui apostasie sa foi perd tout. Et risque même, dans certaines régions, de perdre la vie. C'est tragique. Ils en sont encore là. Il faut prier pour les musulmans, pour que leur cœur s'adoucisse. Et beaucoup de musulmans ont le cœur bien doux et bien accueillant. J'en ai tellement rencontré dans les pays musulmans qui m'ont si bien reçu. Saint Calliste est fêté comme martyr, mais ça peut difficilement être vraiment une mort violente qu'il aurait subie durant des persécutions, puisqu'à l'époque où il est mort, en 222, l'empereur qui régnait, qui s'appelait Alexandre Sévère, malgré son nom Sévère, il ne persécutait pas les chrétiens. Et selon la tradition, Saint Calliste aurait été victime plutôt d'une émeute populaire. Il aurait été jeté dans un puits au Transtévère. Vous êtes allé déjà, vous qui êtes allé à Rome au Transtévère, il y a une belle place là. Et c'est là que s'est réuni les membres de la communauté de San Egidio, dont il est souvent question dans les nouvelles, tellement leur travail pour l'unité, la paix, la compréhension est extraordinaire. Il faudrait que je vous parle de cette communauté San Egidio que j'ai fréquentée à Rome et que j'ai beaucoup aimée. Une communauté de jeunes laïcs brillants, des étudiants, des étudiantes, des jeunes ouvriers et des jeunes engagés dans l'administration déjà, et qui ont 25 ans, 27 ans, et qui ont une telle foi, une telle puissance, une telle modernité. Ils arrivent en Vespa, ils s'embrassent et assistent à la messe avec foi et chantent avec un tel dynamisme, ces jeunes Italiens qui sont extrêmement nombreux, des milliers, hein. Que c'est merveilleux, si on avait donc ça à Montréal. Mais on ne sait pas, en fait, finalement, la raison de la colère de la population de Rome contre un homme, ce pape, dont les mesures indulgentes auraient dû, il me semble, susciter la reconnaissance. Mais n'oublions jamais que tout pape et tout chrétien est disciple d'un maître crucifié. Crucifié pourquoi ? À cause de l'amour, de la miséricorde sans limite qu'il portait aux siens. Voilà pour la vie de Saint Calliste. Et maintenant, nous passons à Saint Géraud d'Aurillac. Ce laïc dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est mort en l'an 909. On se rappelle que Jésus avait dit à un jeune homme qui était désireux de devenir un saint ou qui était avide de perfection, « Vends tout ce que tu possèdes, donne le prix aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Or, les appels sont bien divers. Hein? Sachez bien que la sainteté est pour tous, quel que soit l'état de vie. Hein? Moi, j'ai bien connu M. Gigi Joubert. C'était le père de ma belle-sœur. C'était un multimillionnaire qui a fait fortune avec sa laiterie. C'était un paysan très simple, qui était très riche finalement. Et quand j'allais le voir, son regard d'une telle bonté était extraordinaire. Et sa générosité, on l'a vu au moment de sa mort, tous les gens qui venaient remercier ma belle-sœur d'une immense générosité. Il avait dû distribuer au moins 1 million. Incognito, Gigi Joubert, hein, qui est mort, si je me souviens bien, en 1943. Il faudrait que je vous parle de lui. Hein. Il lisait, durant les dernières années de sa vie, le témoignage de Marie de l'Incarnation. Il récitait son rosaire chaque jour, assistait à la messe. Alors, pour revenir à Géraud d'Auriac, qui a vécu dans le haut Moyen-Âge et qui est parvenu à une grande sainteté, tout en restant dans le monde, tout en gardant même cette immense propriété, un immense domaine qu'il avait, eh bien, il s'est démarqué du riche de l'Évangile qui, lui, était attaché à ses richesses. Et les renseignements qu'on a sur sa vie grâce à la belle biographie qui a été écrite par Odon, saint Odon, l'un des saints abbés de Cluny, dont je vous parlerai dans un mois, le 18 novembre, c'est-à-dire j'en parlerai le 17 novembre, parce que j'aime beaucoup saint Odon. Je suis très attaché à l'histoire de l'abbaye de Cluny, que j'ai bien étudiée au cours des années. Ça fait 40-50 ans que je me penche là-dessus. Eh bien, dans sa biographie, les renseignements qu'on trouve nous montrent que saint Géraud d'Auriac s'est formé et s'est conformé à la volonté divine. Géraud, ça s'appelle G-E accent aigu, R-A-U-D. Il est né en 855 à Auriac, dans le Cantal. Son père l'a formé, comme dans toutes les familles riches de l'époque et même assez récemment, il l'a formé à toutes les activités d'un jeune seigneur de son temps, quoi, la chasse, la guerre, le combat, etc. Mais sa mère, elle lui a donné le goût de la Bible, le goût des saintes écritures, parce qu'on savait lire dans cette famille, ce qui était très rare. Alors il a appris à lire en particulier le psautier, et ça l'a beaucoup touché, les psaumes. Et adolescent, il aspirait donc à se donner à Dieu dans un monastère pour aller y réciter justement ces psaumes, comme on en a entendu ce matin vers 7h30, grâce au chant grégorien qu'on vous fait entendre le matin, grâce à M. René Barbin qui nous fait jouer ça le matin. Mais son évêque, à Géraud d'Auriac, a préféré lui conseiller de rester dans le monde plutôt que d'entrer dans un monastère, parce qu'il voyait sans doute en lui, quoi, un témoin de la foi dans le monde et un modèle. Et puis quelqu'un qui avait tellement de responsabilités qu'il pourrait administrer chrétiennement tout ce qu'il possédait. Ça me fait penser à ce grand chrétien de Montréal qui possède comme ça une immense industrie. Et puis il est allé auprès de Mère Teresa, puis songeait à donner sa vie avec sa femme. Et Mère Teresa lui a dit, non, non, gardez votre usine, continuez et administrez-la. Nous avons besoin de bons chrétiens à la tête de grandes usines. Et voilà que Géraud d'Auriac reste dans le monde. Il y a vécu cependant à la manière d'un moine, car il est resté célibataire. Il pratiquait de grandes austérités en jeûnant et en passant de longues heures en prière, sans attenter à ses responsabilités, évidemment. Ce grand propriétaire foncier, possédait d'innombrables serres qui cultivaient ses terres. Alors il se conduisait envers ses serres avec un esprit qui était inspiré de l'Évangile. Ce n'était pas le fait de tous les seigneurs de son temps, loin de là, hein. Et certains traits de sa vie font déjà de lui un moderne, un patron moderne, en particulier quant à la condition et au travail des femmes. Alors il ne faut pas lui reprocher quand même de ne pas avoir travaillé à l'abolition du servage. Le servage n'était pas nécessairement de l'esclavage. Et le moment d'ailleurs de s'attaquer aux institutions n'était pas encore venu, parce qu'à cette époque, les serfs préféraient souvent être sous la juridiction d'un grand seigneur afin d'être défendus contre des attaques qui pouvaient venir des seigneuries voisines. C'était des périodes difficiles. Donc, moderne, Géraud d'Auriac l'a été également en s'opposant farouchement à la guerre. Il a refusé de verser le sang, même quand cette guerre pouvait passer pour juste. Et tout naturellement, bien, Géraud d'Auriac a eu à cœur de fonder un monastère sur ses terres, et ça a été l'abbaye d'Auriac. Et vers la fin de sa vie, il est devenu aveugle. Ça rappelle le vieux Tobie de la Bible. Et comme Tobie n'a pas cessé plutôt de bénir Dieu. Parce que pour lui, c'est Dieu qui fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Je pense à une amie de ma mère qui était aveugle, qui avait craint en allant à l'oratoire Saint-Joseph d'avoir vu une lueur. Elle a eu craint de voir, car elle était tellement habituée à le fait d'être aveugle. Je m'excuse de dire aveugle, paraît-il qu'il faut dire autre chose, il faut dire handicapé visuel. Bon, mais je suis handicapé visuellement aussi, j'ai des lunettes là pour lire. Non, je ne veux pas me moquer des aveugles. Mais je trouve qu'on change trop les mots. Et c'est un beau mot pour moi, aveugle. C'est beau, c'est un son magnifique. Et j'ai tellement de respect pour les aveugles. Et alors donc, tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Et cette aveugle, qui était la mi-maman, aimait beaucoup Dieu. Elle craignait de voir. C'est curieux, hein? C'était Mademoiselle Cipiotte, qui est très connue, Jeanne Cipiotte. Alors donc, il est mort, notre saint Géraud d'Auriac, le 13 octobre de l'an 909, dans son château où il avait vécu comme dans une cellule de moine. Et son biographe, saint Todon, abbé de Cluny, qui nous a rapporté les miracles qu'a fait Géraud durant sa vie, nous dit qu'il en a fait encore beaucoup d'autres après sa mort. Savez-vous que saint Géraud d'Auriac est même connu des chrétiens orthodoxes qui le qualifient de thaumaturge, qui l'aiment beaucoup et qui le fêtent le 13 octobre eux aussi. Et maintenant, je passe à Catherine Lassagne. Bon, il y a des gens, il me semble qu'il faut sortir de l'ombre après leur mort. C'est bien entendu que Catherine Lassagne, aux yeux de bien des gens, ce n'est qu'une vieille fille. Ce n'est qu'une vieille fille. Ah, au cœur de bien des vieilles filles que je connais, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'or, il n'y a plus de pierres précieuses que dans le cœur de bien des gens que l'on ne qualifie pas d'être des vieilles filles. Une vieille fille peut être tendre, douce, bonne, humble, serviable et gentille et enthousiaste. Et à lire sa vie, enfin, ce sont des débris de biographie. On pourrait croire que ce n'était qu'une espèce de fleur séchée comme celle qu'on trouve, c'est pas dans des vieux livres, hein? Pas du tout. Catherine Lassagne a vécu évidemment dans l'ombre du curé d'Ars, comme je vous ai dit au début de cette émission. C'est pas sans une grande charité que l'on est témoin fidèle d'un grand saint, surtout d'un grand saint comme le curé d'Ars, qui était souvent très sévère, vous savez. Il devait être très difficile parfois, le curé d'Ars, très exigeant. On ne rêve jamais, nous, de servir un curé austère ou d'être ami d'un curé qui a l'air austère et très exigeant. En somme, on aimerait bien savoir si c'est un saint avant de le faire. Et quand on rêve d'être près d'un curé qui est un saint, c'est lorsque, justement, ce curé est canonisé. Avant ça, quand il n'est pas connu du grand public, souvent on les fuit. Hein? Or, quand donc peut-on dire qu'a commencé la vie de Catherine Lassagne? C'est à Ars, dans un hameau qui s'appelle le Tonneau. C'est en 1806. Enfin, pas tout à fait. Elle est inscrite à ce jour dans le registre communal. Mais le vrai jour du début de sa vie est un peu plus tard. Catherine va avoir 12 ans. Elle était jusque-là plutôt bichonnée par sa mère, qui se plaisait à friser chaque matin sa fille, la parer. Elle rêvait sans doute de mener sa fille bientôt danser comme les plus belles des filles qui dansent là chaque dimanche sous les tilleuls de la place d'Ars au gré d'un violonneux. Peut-être même que Catherine a déjà flâné un peu durant ces fameuses veillées où on songeait guère à surveiller les enfants. Mais voilà que la mère Lassagne, Madame Lassagne, attrape sa fille, la lave un jour, et puis lui fait enfiler une robe et puis elle dit « Allons à la prière ». Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Madame Lassagne a entendu le nouveau curé d'Ars. Et puis elle revient du sermon avec des larmes dans les yeux, puis un air tout changé. Catherine ira donc aux vêpres. Aux vêpres aussi avec une autre jeune fille qui s'appelle Marie Filia, qui la fera souffrir toute sa vie. Les deux autres filles. Et en ce dimanche d'été 1818, eh bien, Marie Lassagne, Catherine Lassagne plutôt, pénètre sans joie dans l'église d'Ars, qui sent un peu l'encens. Ça sent beaucoup le moisi dans cette vieille église-là. Et elle entend par les fenêtres la musique sur la place, puis elle ne peut pas aller danser. « Monsieur le curé terrible, dit-on. » Et Catherine le regarde. Il sourit. Il entraîne les petites filles dans son jardin. On va manger des groseilles. Et après, on va parler à la Sainte Vierge en lui disant le chapelet. Il leur dit, « N'êtes-vous pas plus heureuse que celle qui danse ?» Alors, la personnalité de Catherine date de cette heure-là. Elle décide de changer. Nous la voyons grandir. Elle est guidée plutôt sévèrement par ce curé d'Ars si austère, mais qui est si impressionnant quand il prie. Et l'enfant a vu ce bon sourire de cet être extraordinaire qu'est le curé d'Ars. Cet être qui est entré déjà ici-bas dans la joie de Dieu. Catherine obéit, elle travaille. Là, le curé d'Ars veut faire une école, alors il envoie Catherine quérir son instruction, un an d'études. Et la voilà revenue avec le titre et la charge de directrice de cette école qu'il appelle la Providence. C'est une œuvre d'accueil pour toutes les filles pauvres qui y arrivent. On manque de pain? Alors il dit, priez. Oui, qu'est-ce qui arrive? Un miracle. Et Catherine, finalement, ne doute pas. On manque de lit. Qu'est-ce que dit le curé d'Ars? Il dit à Catherine, « Donnez le vôtre et allez coucher dans le grenier. » Il n'y va pas de main morte. Hein? Alors, les aides de Catherine, elles, sont plutôt incultes, elles sont frustes. Il y en a une, pourtant, qui est exquise et qui est sa consolation. Elle s'appelle Benoîte, mais elle meurt dès 1830, 12 ans plus tard. Hein? Catherine vit des années de labeur ingrat dans une atmosphère impossible. Et cette providence, cette école, c'est toute sa vie. Et voilà que les autorités ont jugé que la maison qu'elle aime comme si c'était sa fille est tenue en dépit des exigences de l'instruction normale. Alors là, il faut de vraies institutrices et de l'organisation. Et Catherine est là, sur le pas de la porte, pour accueillir des religieuses qui vont prendre en main sa maison à elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle leur sourit, puis elle leur dit tout tendrement, « Vous êtes chez vous, mes sœurs. » Comment faire pour abandonner avec le sourire aux lèvres une école qu'on aime? Et Catherine s'efface, et pas seule pourtant. Elle va occuper un humble logis avec sa compagne de toujours, la Marie Filia, qui va la faire souffrir, qui est rude, qui est une femme dévouée quand même, qui est usée par le travail, qui est impotente et acariate. Et Catherine la serre et trotte vers le presbytère où elle a son maître, hein, son saint, son curé d'Ars, qui repousse ses attentions de temps en temps. Alors, comme il va s'effondrer de faiblesse, ce cher curé d'Ars qui est sous-alimenté, Catherine est là, humble, et elle tient une tasse de lait chaud, bien sucré. Mais mystère d'une vie pénitente, le curé avait dû boire le lait, ne fût-ce que par charité pour Catherine, pensons-nous. Non, non, il la repousse souvent, il court vers l'église, il n'en veut pas. Le curé sait quelle merveille de grâce c'est l'âme de Catherine. Elle est bâtie pour l'héroïsme et pour une adaptation totale à la voie extraordinaire où Dieu a appelé son curé. Catherine a-t-elle compris? Peut-être pas, mais sa soumission est totale. La confiance du saint en Catherine est absolue. Il n'y a pas eu de secret pour elle, pas même des projets de fuite. Il lui raconte qu'il veut s'en aller rentrer dans une trappe. Le saint curé est mort. Catherine reste seule avec la vieille infirme grognante, le Marie Filia. Et elle meurt finalement le 13 octobre 1883, mais elle aurait eu la charité d'écrire ses souvenirs sur son curé, rien sur elle-même. Une petite vieille percluse de rhumatisme, croit Catherine, penchée sur sa canne, pauvrement vêtue. Une petite vieille, comme nous en frôlons chaque jour des dizaines, et pour lesquelles il semble qu'il n'y ait guère de place, n'est-ce pas, dans notre monde. Une vieille fille, mais à mon avis, une sainte qui devrait être canonisée. Je viens maintenant pour vous parler d'un saint qui... C'est difficile de parler de lui, Saint Gérard Majella. C'est tellement extraordinaire que c'est gênant. Je l'avoue bien franchement. Et pourtant, c'est un garçon très saint. C'est le fils d'un tailleur d'un endroit qui s'appelle Muro Lucano, dans la région de Naples, donc dans le sud de l'Italie. Et ce petit Gérard Majella avait 6 ans, dit-on. Il est né en 1726, donc en 1732, il avait 6 ans, lorsqu'au sanctuaire de la Sainte Vierge, il aurait vu l'enfant Jésus s'élancer des bras de sa mère pour venir jouer avec lui. Bon, ça commence. Attendez-vous à toutes sortes de choses. Il faut s'abandonner à ces belles choses. Avant de le quitter, Jésus lui remettait quoi? Un pain blanc. Et sa mère lui demandait, « Mais qui donc t'a donné ce petit pain ?» Mais Gérard expliquait que c'était ce bel enfant de la statue. Bon, doit-on croire ces choses-là? Je ne sais pas. À 8 ans, Gérard Majella a désiré de toute son âme communier. Il s'est présenté à la Sainte Table. Et le prêtre, qui le voyait si jeune à une époque où la première communion se faisait beaucoup plus tard, ne s'est pas arrêté devant lui. Qu'est-ce qui est arrivé? La nuit suivante, Saint-Michel lui-même, que l'enfant priait toujours ardemment, il n'est pas, il a 8 ans, et bien Saint-Michel lui apporte l'hostie. Alors on continue.
Alors à 15 ans, le jour de sa confirmation, la confirmation, je le rappelle, c'est le moment où un évêque ou son représentant confirme dans la foi catholique ou la foi chrétienne un chrétien déjà baptisé. Et c'est le moment où on affirme solennellement la prise de possession par l'Esprit Saint de l'âme d'un jeune chrétien ou d'un chrétien adulte qui s'est converti. Alors Gérard, ce jour de la confirmation, il entend l'appel de Dieu. Il se présente au couvent des Capucins, cette sorte de franciscain exigeant et admirable, les Capucins. Il y trouve son oncle. Mais cet oncle juge que la santé de Gérard Majella ne résistera pas à la dure vie religieuse, alors il trouve plus sage de ne pas l'accepter. Il lui fait cadeau d'un vêtement neuf, un vêtement laïque, croyant ainsi consoler Gérard. Il consolait un peu, mais Gérard Majella, en sortant du monastère, il rencontre un miséreux, puis il lui remet aussitôt le bel habit que son oncle lui a donné. Alors Gérard Majella entre au service de l'évêque de Lacedonia, et il fait l'admiration de tous ceux qui le voient vivre. 3 ans plus tard, l'évêque meurt. Alors Gérard Majella reprend son métier de tailleur. Il est établi à son compte, mais il ne garde pour lui que juste ce qu'il faut pour vivre. Tout ce qu'il gagne s'en va en charité. Une planche lui sert de lit. On trouve ça souvent dans la vie des saints. On trouve ça aussi dans la vie de gens assez athlètes là, qui veulent dormir sur la dure. Une planche lui sert de lit. Il se flagelle. C'était de coutume encore récemment, hein, ça se pratiquait, la flagellation, l'auto-flagellation. Oh, c'est pas nécessairement du masochisme et de la maladie. Hein. Il passe souvent des nuits en prière. On se moque de lui à cause de sa piété, on lui jette des pierres parfois. Mais il garde toujours la même douceur. À ceux qui s'étonnent des autorités, des austérités plutôt, si terribles, il répond, je veux à tout prix devenir un saint. C'est quelque chose qu'on devrait tous dire. Hein? Je veux à tout prix devenir un saint. Il ajoutait, mais qu'est-ce que tout cela en regard de ce que Jésus a souffert pour moi? La nuit, enfermé dans l'église, il entend Jésus l'appelait tendrement Pazzerello, ce qui veut dire petit fou. Écoutez bien la réponse de Gérard Majella. Je la trouve très sympathique. Et vraiment, c'est le plus beau moment peut-être de la vie de Saint Gérard Majella. Il dit à Jésus, « Vous êtes bien plus fou que moi, Seigneur, vous qui restez jour et nuit dans cette prison. » Les miracles se multiplient sous la prière de Saint Gérard. Un enfant qui s'est grièvement brûlé, bien Gérard le touche et le guérit. Saint Gérard il veut garder une pureté angélique. Alors, en signe de ça, il a passé un anneau au doigt de la statue de la Vierge. Et ce seront ses épousailles pour la vie. Mais il cherche toujours sa voie. Or, Saint Alphonse de Liguori, cet ancien avocat qui a fondé les rédemptoristes, et qui est le patron d'une paroisse voisine ici, au métro Crémazie, Alphonse de Liguori, a admis Gérard Majella au couvent des rédemptoristes. Et comme Alphonse de Liguori, il fait le vœu d'accomplir le plus parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que devant chaque action, lorsqu'il peut le raisonner, là, il choisit ce qu'il y a de mieux à faire, toujours. Entre deux bonnes choses, il choisit toujours ce qu'il y a de mieux, de plus parfait. Je vous dirai tout à l'heure ce qu'il en dit lui-même. Il n'était pas malade, hein? Vous verrez. Son amour pour Jésus crucifié est si ardent que la simple vue d'un crucifix le fait entrer souvent en extase. Alors il est reçu au noviciat de Delicato, c'est pas loin ce de Foggia, où vivait d'ailleurs le père Pio dont je vous ai parlé là il y a quelques jours. Le père Pio, j'ai consacré toute une heure au père Pio, hein, vous vous en souvenez. Alors, reçu au noviciat de Delicato, il fait profession comme frère convert. Une fois qu'il préparait la table, son regard est tombé sur l'image de Lecce Homo. Vous savez, le Christ de douleur, couronné, ensanglanté. Et Pilate dit, voilà l'homme, Lecce Homo. Et cette image le bouleverse. Aussitôt, il a été soulevé de terre devant tout le monde, les bras tendus dans l'adoration. Vous allez dire, voyons, ça n'a pas de sens. Mais il y a plusieurs saints qui ont... jouit, si on peut dire, de ce privilège étrange de la lévitation. On appelle ça comme ça, la lévitation. La volonté de ses supérieurs était pour Gérard la volonté même de Dieu. Il avait le sens de l'obéissance totale. Pourquoi, disait-il, perdre dans nos plus petites actions le mérite de l'obéissance? Alphonse de Liguori proclamait « Gérard Majella est un prodige de régularité. Je suis grandement édifié. » Quand je considère à quelle perfection il est arrivé, c'est Saint Alphonse qui dit ça. Et des miracles glorifiaient son extraordinaire obéissance, ses supérieurs n'ont qu'à penser seulement un ordre pour qu'il soit exaucé. Si je vous raconte un fait, l'évêque de Malfi a entendu parler de lui. Il exprime son désir de le connaître au père recteur qui aussitôt en lui-même l'appelle. Au même instant, dans le couvent éloigné où il se trouve, Gérard Majella affirme tout à coup à son supérieur local que le père recteur là-bas l'appelle à Malfi. Alors il part à cheval. Un orage éclate, un torrent charrie les arbres et les rochers. Et puis le passage est rendu impossible, mais Gérard fait un signe de croix et déclare « Passons au nom de la très sainte Trinité ». Alors il entre dans le fleuve et on raconte qu'un arbre est venu droit sur lui, puis un nouveau signe de croix écarte le danger. Grave danger qui était mortel. Et après un voyage de péril et de miracle, Gérard Majella arrive à Malfi et le recteur lui dit « Mais pourquoi venez-vous? Je ne vous ai envoyé ni messager, ni lettre. » Et Saint Gérard répond « C'est vrai, mais vous me l'avez commandé en vous-même sur la demande de Monseigneur l'évêque. » Et tourné humblement vers l'évêque, « Je ne suis, dit-il, qu'un misérable qui a besoin de toute la miséricorde de Dieu. » Alors l'évêque est émerveillé, autant que des prodiges de cette humilité puis de cette obéissance. Et comme on fait bien des saints, bien Gérard Majella commande au diable, à la nature, aux animaux, dit-on. Et par un simple signe de croix, il a fait périr, dit-on, les rats qui dévastaient les champs d'un pauvre homme. On raconte aussi qu'un énorme arbre abattu doit devenir la poutre de la toiture d'une église. On a travaillé. Bon, qui va le transporter? Alors Gérard, ayant prié, lui ordonne de le suivre, l'attache avec une corde et le traîne, cet arbre, jusqu'au chantier d'une énorme poutre. Et passant au bord de la mer, on dit qu'il a aperçu une barque que la tempête va engloutir. Alors il se précipite, marche sur la mer et saisissant la barque, il la ramène au port. Une année de mauvaise récolte, les pauvres sont accourus en foule au monastère. Alors sous la main du saint, bien, le pain s'est multiplié. Ça arrive souvent, même au XXe siècle, des multiplications de pain. Il vient en aide aux tristesses, aux épreuves, aux malheurs. À ceux que Gérard Majella ne guérit pas, bien, il donne la patience, la résignation. La duchesse de Maddaloni envoie demander que vienne frère Gérard au portier. Elle demande ça au portier. Elle demande frère Gérard. Or, le portier, mais c'est justement frère Gérard. Alors frère Gérard dit, je ne sais pourquoi on le demande, ce frère Gérard. C'est un simple d'esprit. Alors la duchesse, dont la fille est très malade, vient assister à la messe, puis elle réitère sa supplique. Alors Gérard, sans se faire connaître, répond simplement, mais c'est Dieu qui opère les prodiges. Et voici qu'on on accourt et on vient annoncer à la duchesse de Maddaloni que sa fille se trouve soudain guérie. Il a déjà été calomnié par une femme, Gérard Majella. Il a failli être chassé des rédemptoristes. Alphonse Liguori l'avait fait changer de résidence à cause de ça. Il lui interdit de recevoir la communion et tout rapport avec l'extérieur à cause de sa mauvaise conduite, selon ce qu'avait dit une femme. Il a tout supporté cette épreuve en silence pendant des mois jusqu'à ce que cette femme, cette calomniatrice, se rétracte. En somme, l'immense charité de Gérard est extraordinaire. Il veille sur les pécheurs comme sur les malades. Hein. À la suite d'un assassinat, deux parties sont entrées en haine, en bagarre à Castel Grande dans le sud de l'Italie. Ça veut dire on va jusqu'à la mort. Hein. Une réconciliation semble impossible. La famille de la victime crie vengeance. C'est la vendetta. Hein. En vain, Gérard implore la miséricorde. Et alors, il pose à terre son crucifix. C'est extraordinaire, ça, cette scène-là. Il pose à terre son crucifix, puis il dit aux parents, qui sont fâchés les uns contre les autres, « Alors, marchez sur ce Christ. Pourquoi hésitez-vous? Et ne saviez-vous pas, écoutez bien ça, c'est très important, ne saviez-vous pas que garder de la haine, ou bien marcher sur le Christ qui commande de pardonner, c'est la même chose. » Et c'est vrai, hein? C'est très beau, cette scène-là. Alors, Gérard a réussi par la promesse d'un trésor à entraîner un aventurier dans un bois. Et là, le forçant à s'agenouiller, il lui révèle ses crimes. Il le supplie de changer de vie. Et cet homme pécheur, qui s'est confessé, lui rend grâce de lui avoir révélé le vrai trésor. Il y a toutes sortes de belles paroles de Gérard Majella. Il dit « Aimer beaucoup Dieu oh, ». C'est simple, j'allais dire. Mais « Aimer beaucoup Dieu ». Être toujours uni à Dieu. Faire tout pour Dieu. Me conformer toujours à la volonté de Dieu. Sentiment les plus vifs de mon cœur. Une bonne fois, j'ai une belle occasion de me faire saint. Si je la perds, je la perds toujours. Ici, une bonne fois, j'ai la chance de pouvoir me faire saint. Qu'est-ce que j'attends pour me faire saint? J'ai toutes les occasions favorables pour me faire saint. Allons-y! Je veux me faire saint. Oh, qu'il importe de me faire saint! Seigneur, quelle folie est la mienne! Je peux devenir saint aux frais d'autrui, et puis je me plains. Frère, il se parle à lui-même. Il dit, frère Gérard, décide-toi à te donner tout à Dieu. À cette heure, corrige-toi et pense que tu ne deviendras pas saint en restant seulement en continuelle oraison et contemplation. La meilleure oraison, c'est être comme il plaît à Dieu, être franc avec le divin vouloir, c'est-à-dire s'employer continuellement pour Dieu. C'est ce que Dieu veut de toi. Ne t'inquiète pas de toi et de tout le monde. Il suffit seulement d'avoir Dieu présent dans ses emplois et d'être toujours en Dieu. Vraiment, tout ce qu'on fait et ce qu'on fait pour Dieu seul est hors raison. Certains ont l'obligation de faire ceci ou cela, et moi j'ai seulement l'obligation de faire la volonté de Dieu. Nulle peine n'est peine quand vraiment on travaille pour Dieu. Que c'est beau ça. Nulle peine n'est peine quand vraiment on travaille pour Dieu. Et le 21 septembre 1752, je me suis mieux persuadé de cette maxime, à savoir que si j'étais mort depuis 10 ans, je ne chercherais et ne prétendrais plus rien. C'est peine infinie de souffrir, et non pour Dieu. Souffrir tout et le souffrir pour Dieu, ce n'est rien. Je veux agir dans ce monde comme si nous étions seuls, moi et Dieu. Ah, beaucoup me disent que je dupe le monde. Oh, Dieu, la grande merveille. Si je dupais le monde, la merveille, ce serait de duper Dieu. Il fait une réflexion, il dit, si je me perds, je perds Dieu. Et que me reste-t-il à perdre une fois Dieu perdu? Seigneur, fais que me soit recommandée particulièrement la vivacité de la foi dans ce très saint sacrement de l'autel. Il a écrit aussi 39 résolutions et la 16e est merveilleuse. J'aurai le plus grand soin de fuir toute occasion de faire impatienter mon prochain. À la 27e résolution, pour être tout à Dieu, il faut être sourd, aveugle et muet. La 28e, c'est jamais en moi ces paroles, je veux, je ne veux pas. Car je veux seulement que en moi soient tes volontés et non mes volontés. La 29e résolution, c'est pour moi ce que Dieu veut, il faut ne plus faire ce que je veux. Si moi, je veux seulement Dieu, il faut que je me détache de tout ce qui n'est pas Dieu. Alors, notre frère Gérard Magella, notait à propos de son vœu du vieux parfait dont je vous ai parlé tout à l'heure, des choses très, très intelligentes. Parce que ça nous semble un peu exagéré faire le vœu du vieux parfait, de toujours accomplir ce qui est le mieux. Alors, il écrit, c'est très sensé, quel discernement. Il dit ceci, « Avec ce vœu, je me suis obligé de faire le plus parfait, c'est-à-dire ce qui me paraît le plus parfait devant Dieu. » Il s'étend à toutes mes actions, ce vœu, même la plus petite. Et je serai dans l'obligation de faire tout avec la plus grande mortification et perfection devant Dieu, présupposant toujours la permission générale de votre révérence, en parlant d'Alphonse de Liguori, afin de procéder avec sûreté. Là, il fait des réserves sur le vœu. Il dit « Toutes les choses et actions faites distraitement, sans attention, non conformément au vœu, ne sont pas objet du vœu. » Donc, ça compte pas, ça. Il ajoute « Chercher dispense n'est pas contre le vœu. » Donc, il peut demander une dispense de temps en temps. « Je pourrais demander permission à n'importe qui, hors de la maison, pour éviter tout désordre ou scrupule qui pourrait m'empêcher d'agir. Hein. » Il ajoute, je peux demander permission au Père Confesseur de me relever de ce vœu, et cela autant de fois qu'il voudra. Je note aussi ses affections qui terminent son écrit. Il dit, ô mon Dieu, si je pouvais vous convertir autant de pécheurs qu'il y a de grains de sable dans la mer et sur la terre, de feuilles dans les arbres, de plantes dans les champs, d'atomes dans l'air, de rayons de soleil et de lune, de créatures sur la terre, ô mon Dieu, si je pouvais vous convertir autant de pécheurs. C'est formidable. Alors, de la fin de juillet 1754 jusqu'au début de novembre, Gérard a été employé à l'hospice fondé par les pères rédemptoristes à Naples. Et de là, il est revenu à Capocelle, où il a été portier. Il a mérité le surnom de père des pauvres. À la fin février 1755, c'est l'année de la déportation des Acadiens. Quelle tristesse, hein? Tout ça se déroule à des dates qui nous rappelle l'histoire. À la fin de février 1755, il retournait à Naples. Il rentrait à Capozzele vers le 9 juin pour y surveiller des travaux de construction. Il y avait du talent. Hein? Et en juillet, ben, l'Ospedie quêtait. Pas facile, ce quêtait pour le travail de ces constructions. Hein? Il est tombé malade pendant sa tournée. Ça l'a rendu malade. Il est rentré épuisé à Capozzele le 31 août. Il devait mourir le 8 septembre. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'est pas mort le 8 septembre. Il a attendu par obéissance. Oui, oui, on lui avait dit intérieurement qu'il mourrait le 8 septembre, alors il a attendu par obéissance. Il souffrait beaucoup. Il disait, « Je sais, en somme, le purgatoire dans cette vie. Je suis continuellement dans les plaies de Jésus-Christ, et les plaies de Jésus-Christ sont en moi. Je souffre sans cesse les peines et les douleurs de la passion de Jésus-Christ. C'est toujours bien peu ce que je souffre pour l'amour de Jésus-Christ. Dieu est mort pour moi, et s'il plaît à Dieu, je vais mourir pour lui. Il était au supplice de ce qu'un frère fut obligé de lui administrer une potion à minuit. Il disait, « Éveillez un frère. Je suis un sujet inutile, je ne mérite pas tant. » Il trouvait que les ordonnances du médecin ruinaient la communauté. Il disait, « Je suis un rien du tout. Moi, je ne suis qu'un simple frère, je rapporte rien. » Et le 15 octobre, dans la soirée, il dit à un frère, « Cette nuit, je dois mourir. Alors habillez-moi. Je veux réciter l'office des morts pour mon âme. » Ça existait, ça, autrefois, l'office des morts. Hein? Oh, il n'y a pas longtemps qu'on a supprimé ça. Quelques années à peine. Alors, vers les 24 heures du soir, on calculait l'heure de cette façon-là. Ça veut dire que c'est le coucher du soleil, c'est-à-dire vers 5h30 de l'après-midi. Il déclara, « Nous en avons pour 6 heures encore. » Et dans ces dernières heures, il répétait du fond du cœur le Miserere, le psaume 50, insistant sur « Tibi soli peccavi, a peccato meo mundam me. » Ce qui veut dire « J'ai péché seulement contre toi. » Et de mon péché, lave-moi, Seigneur. Et vers 2 heures de la nuit, ou si on préfère, à 19h, l'heure véritable, il a répété, « Mon Dieu, où es-tu? Que je te vois, mon Dieu! Puis, aidez-moi à m'unir à Dieu! » Et vers 10h du soir, « Vite, vite, frère Xavier, chassez ces milords d'ici! Que veulent ces deux coquins? » Le calme est revenu. C'est sans doute des démons qui le taquinaient, un peu comme le curé d'Ars et d'autres. Hein. Et là, le calme est revenu, puis il dit, « Voici la Sainte Vierge, la Madone. Présentons-lui nos hommages. » Et un peu plus tard, il a contemplé son crucifix et une image de Marie en face de lui. Il a dit, « mon Dieu, je veux mourir pour vous plaire. Je veux mourir pour faire ta sainte volonté. » Et il est mort à minuit et demi, dans la nuit du 15 au 16 octobre. Il avait vécu 29 ans, dont 5 seulement dans la congrégation des rédemptoristes. Saint Gérard Majella a été béatifié en 1893 seulement et canonisé en 1904. Il est resté extrêmement populaire en Italie. Il était extrêmement populaire dans mon enfance ici à Montréal. Surtout à cause de ses prodiges. Et on racontait par exemple que Saint Gérard Majella, pour prier tranquille, avait demandé à Dieu de le rendre invisible. Alors, on le cherchait parfois dans sa cellule et personne ne pouvait le trouver. Il n'y avait personne, quoi. Alors, son supérieur lui avait dit, « Pour cette fois, frère Gérard, je vous pardonne, mais attention, ne faites plus de pareilles prières. » Et les enfants de Capozzele appelaient désormais le jeu de cache-cache, là. Vous savez, quand on joue à la cache-cache, « Acovarella », ils appellent ça « Frère Gérard ». C'est surprenant, hein? En tous les cas, il ne faut pas insister sur ces grâces extraordinaires. Ce qu'il faut retenir, c'est cette exclamation de Saint Gérard Majella à propos des puces qui le dérangeaient la nuit. Et je vous laisse là-dessus. Il disait « Combien je leur dois à ces puces? Elles m'empêchent de dormir et ainsi je peux continuer à penser à Dieu. » Faites donc la même chose quand vous ne dormez pas. Pensez à Dieu, priez.